Alors, si vous voulez me suivre, on va aller dans Genèse, chapitre 1, versets 1 et 2. Alors, on va prendre une petite bouchée ce matin, très petite la bouchée. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de matériel dans la petite bouchée. Alors, Genèse, chapitre 1, versets 1 et 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pour ce qui est du reste du chapitre, on va le développer dans les prochaines semaines, on va continuer. Mais aujourd'hui, je me suis contenté de 1 et 2 parce que j'ai passé beaucoup d'heures à juste mettre de l'ordre dans tout ce que j'ai trouvé là-dessus. Et on reviendra sur les jours de la création. Alors, j'ai intitulé la leçon d'aujourd'hui, le sermon d'aujourd'hui, « La création de l'univers révèle la majestueuse gloire de Dieu. » Alors, la création de l'univers révèle la majestueuse gloire de Dieu. Et j'ai développé le sermon autour de trois idées. La création de Dieu proclamée, dans le verset 1. La création de Dieu préparée, dans le verset 2, parce qu'on voit que, dans le fond, la raison pour laquelle le verset 2 nous a été donné, c'est pour nous préparer à ce que Dieu va dire dans les versets qui suivent, concernant, donc, il a commencé par l'univers. Ensuite, le verset 2, c'est plus la préparation de la terre pour recevoir la vie humaine. Mais on a besoin que ça nous soit dit pour que, quand il va arriver que le verset 3 et les suivants, qu'on voit où ce qui s'en va. Donc, la création de Dieu proclamée, verset 1, la création de Dieu préparée, dans le verset 2, et la création de Dieu profanée, dans les versets 1 et 2. Ce qu'on va voir dans le troisième point, c'est comment certains théologiens ou personnes ont développé des théories concernant ces deux versets-là, qui amènent toutes sortes de choses qui sont fausses par rapport aux Écritures. On va les regarder et on va, non seulement on va examiner brièvement ce qu'ils enseignent, mais on va regarder aussi comment on peut réfuter ces choses-là avec les Écritures. On va commencer par faire quelques observations sur le livre de la Genèse lui-même, parce qu'on rentre dans un nouveau livre. On va faire quelques observations concernant. Alors, on le sait, c'est le premier livre de la Bible. C'est le premier livre aussi de ce qu'on appelle la Pentateuque. La Pentateuque, ce sont les cinq premiers livres des Écritures. Donc, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. C'est l'introduction à ces différents livres-là. Et si on veut donner une longueur de temps à cette période de temps-là du livre de la Genèse, on pourrait dire que le temps de la Genèse s'échelonne à peu près sur 2500 ans. Alors, l'auteur du livre de la Genèse, c'est Moïse, quoique les libéraux, ce qu'on appelle les libéraux en théologie, ce sont ceux qui doutent toujours de quoi que ce soit. Alors, Moïse... La date de composition du livre, on croit que ça aurait été écrit possiblement entre l'an 1446, donc la date de la possible date de l'exode d'Égypte, et la date de la mort de Moïse qui aurait lieu à peu près en 1406. Donc, ce serait durant cette période-là, à peu près, de la braquette de temps-là. Alors, le but principal du livre, pourquoi le Seigneur nous a donné le livre qui s'appelle la Genèse. La Genèse, c'est le livre des commencements. Alors, le but du livre, c'est pour nous montrer, dans le livre de la Genèse, il y a à peu près toutes les grandes doctrines en germe. C'est comme si, quand nous, on fait un jardin, on met une graine, et éventuellement, ça va se développer tout au long des Écritures dans les différents livres. Alors, c'est le livre des commencements. Alors, son nom, Le nom de hébreu vient du premier mot de la Bible qui est en hébreu, qui est Bereshit. Bereshit, ça veut dire, comme ça a été traduit, au commencement. Le premier mot de la Bible veut dire au commencement. Le mot Bereshit, que en hébreu, ils ont gardé Bereshit, mais nous, on a qui a été traduit éventuellement par au commencement ou Genèse. Alors, ça signifie au commencement. Alors, la chronologie de la Genèse s'étend des débuts de la création jusqu'à la période où les descendants d'Abraham fuirent vers l'Égypte pour échapper à la famine. Alors, le livre de la Genèse nous raconte plusieurs commencements. Le commencement de la création comme telle, le commencement des problèmes de l'homme par sa chute, et le commencement de la solution de Dieu à ces différents problèmes-là. Si vous voulez, j'ai dans ceux qui vont télécharger la leçon, les notes de sermon, j'ai mis le plan du livre, et c'est le même plan qu'on avait mis quand on avait étudié le livre de la Genèse. Le plan est assez simple. Si vous voulez retenir un plan de la Genèse qui est simple, vous avez juste à retenir 2 fois 4. Dans le chapitre 1 à 11, on parle de 4 événements. Alors, retenez les 4 événements qui est la création, le chapitre 1 et 2, la chute, chapitre 3, le déluge, chapitre 6, et Babel, la tour de Babel, dans le chapitre 11. Les chapitres 1 à 11, c'est 4 événements. Bien sûr, il y a beaucoup de détails à l'intérieur de tout ça, mais si on veut le retenir facilement dans notre esprit, on a juste à retenir la création, la chute, le déluge et la tour de Babel. À partir du chapitre 12, là, on a l'histoire de 4 patriarches. Donc, c'est 4 événements et 4 patriarches. Qui sont-ils, les patriarches? Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Quand vous lisez votre livre de la Genèse, vous allez rencontrer ces 4 personnages-là. À certains personnages, la Bible accorde plus de longueur de chapitre, mais dans le fond, tout ce qu'on a à retenir, si on veut retenir, qu'est-ce que c'est le contenu de la Genèse? C'est 4 événements, 4 personnages. Si on retient ça, déjà, on garde une image assez exacte du livre de la Genèse. Alors, j'ai mis aussi dans ceux qui vont regarder, les livres des notes, les thèmes majeurs du livre de la Genèse. Donc, on a l'origine du monde, chapitre 1-1 à 2-3. Donc, on a la création, la souveraineté de Dieu dans sa création, les humains qui sont créés à l'image de Dieu et le fait que l'être humain est responsable face à Dieu. Et les personnes qui sont incluses dans cette partie de la Bible-là, donc 1-1 à 2-3, c'est Dieu et les êtres humains. Il y a une autre origine, l'origine des nations, de 2-4 à 11-9, chapitre 11, verset 9. Donc, c'est comment l'homme a tombé dans le péché, la mort, comment est entrée dans le monde, la punition que Dieu a donnée face à la chute de l'homme dans le péché, et la promesse de la grâce. Donc, on a dans cette section-là la promesse de la grâce. Alors, les personnes qui sont impliquées dans cette section-là, Adam et Ève, le serpent, Caïn, Abel et Noé. Et à partir du chapitre 11, aller jusqu'à la fin, on a l'origine d'Israël. Donc, il y a 3 comme grandes catégories d'origine. L'origine du monde, l'origine des nations et l'origine d'Israël. Alors, à l'intérieur du livre d'Israël, là, il y a tous les personnages qu'on a nommés tantôt, assez détaillés. Maintenant, de quelle façon on se doit d'aborder le livre de la Genèse, selon les Écritures? 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17, nous disent quelque chose de très important et qu'on se doit d'intégrer et de réaliser pleinement qu'est-ce que ça veut dire. Moi, je me souviens, la première fois de tout, c'était un livre d'Arthur Pink qui m'a fait comprendre qu'est-ce que ça voulait dire, 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. Quand il m'a expliqué que tous les mots de la Bible, toute écriture, est inspirée de Dieu, soufflée de Dieu. Si on lit les Écritures puis qu'on laisse la science dominer la parole, on va très certainement s'égarer assez rapidement. Si on se souvient que tous les mots même l'ordre des mots, à partir du premier mot de la Genèse jusqu'au dernier de l'Apocalypse, c'est littéralement soufflé de Dieu, c'est Dieu qui parle à travers son livre. À quelque part, ça s'adresse à notre foi. Et si on ne l'exerce pas puis qu'on laisse la science prendre le dessus sur les Écritures, bien sûr, on s'égare, on dérape, ça c'est certain. Alors on va les lire, 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Et là, ça nous donne un but, tout ça, l'enseignement, la conviction, la correction, l'instruction, afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, le but des Écritures, c'est de nous rendre accomplis pour qu'on puisse accomplir des bonnes œuvres comme le Père le veut de chacun de ses enfants. Le livre d'Hébreux, on l'a étudié, dans le chapitre 11, au verset 3, il y a un verset qui nous dit que, dans le fond, la création, la définition de la création, c'est un test de la foi. Parce que ça dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été fait par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alors, le verset est en train de nous dire que la création de Dieu, ça a été créé à partir du néant. Et les choses qu'on voit ont été créées par Dieu lui-même et c'est un test de la foi. Est-ce que tu crois ce que Dieu dit dans Genèse 1-2? Ou si tu ne le crois pas, si tu laisses l'évolution, la théorie de l'intervalle et d'autres choses venir s'enraciner dans ton cœur. Et autre chose qui est très important à saisir, c'est que tout livre des Écritures, peu importe lequel, est toujours ce qu'on pourrait appeler christocentrique. Pourquoi christocentrique? Parce que tout le livre a pour but de nous amener, bon, pourquoi l'homme a un problème? C'est quoi la solution du Seigneur au problème? Genèse 3:15, qui est ce qu'on appelle le proto-évangile. Donc, il nous dit que le problème a été réglé par l'apparition d'un personnage qui viendra prophétiquement dans l'histoire à un moment précis et qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est central dans toutes les Écritures. Donc, c'est un livre prophétique. Genèse, beaucoup de prophéties dans Genèse. Et christocentrique, c'est-à-dire que le but de tout cela, c'est de nous amener de plus en plus à la réalisation de la prophétie de la venue future du Messie, qui était Jésus-Christ. Pourquoi qu'on vous dit que c'est un livre qui parle de Jésus-Christ? Tous les livres parlent de Jésus-Christ. Si on oublie ça, je dirais que c'est le fil conducteur pour la compréhension et l'appréciation des Écritures. Se rappeler que tout parle de Christ. Alors, quand on va dans Luc 24, les versets 25 à 27, quand Jésus parlait avec les disciples d'Emmaüs, puis là, Jésus leur apparaît, puis là, il dit, « Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas l'air de bonne humeur. Coudon, t'es-tu seul qui ne sait pas ce qui s'est passé à Jérusalem récemment? » Fait que là, il a eu besoin de leur faire comprendre qu'il était la réalisation d'une prophétie le concernant. Et voyez-vous ce qu'il dit dans le verset 25? Il dit, « Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence! » Tu n'as pas un compliment qu'il leur faisait, là. « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Est-ce que ça s'applique encore à nous aujourd'hui? La lenteur de croire. Est-ce que ça s'applique encore à nous, le manque d'intelligence spirituelle? Bien entendu. Et voyez-vous, le verset 26, il dit, « Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entra dans sa gloire? » Autrement dit, il est en train de leur dire, « Vous ne devriez pas vous surprendre de ce qui est arrivé à Jérusalem. » Tout ça était dans les Écritures. Si vous aviez intégré, compris les Écritures, vous comprendriez qu'il n'y a rien de surprenant là-dedans. Là. Mais eux, à cause de la fausse conception qu'ils s'étaient fait du Christ comme étant un conquérant militaire qui sortirait les Romains de leur pays, ils n'ont pas compris que l'œuvre qu'il avait faite par la résurrection et tout ça, ils n'ont pas vraiment saisi. Alors, et le verset 27, je dirais que c'est là le verset qui nous apprend que toutes les Écritures parlent de lui. Si on oublie ça, et si on lit les Écritures en oubliant ce principe-là, c'est sûr et certain qu'on n'appréciera pas toute la sucre, toute la substance, la richesse qu'il y a dans les Écritures. Et, dans le verset 27, il dit « Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes. » Alors, qu'est-ce qu'il a fait avec les disciples d'Emmaüs? Il a commencé par Moïse, donc il a commencé par la Genèse. Parce que le premier livre que Moïse a écrit, c'est la Genèse. Il a passé tous les livres, alors il dit, et commençant par Moïse, donc les cinq premiers livres de la Bible, et par tous les prophètes. Alors, il les a passés. On parlait de moi là, on parlait de moi là. Et c'était des gens qui connaissaient les Écritures. Alors, quand il leur rappelait des choses, « Ah, bien, dans Amos, j'ai dit ça. Ah, dans Zacharie, j'ai dit ça. » Et dans les psaumes aussi, probablement, il a dû leur citer les endroits, peut-être pas au complet, là, mais les endroits peut-être les plus significatifs où on parlait de lui, il les a mis ça à l'esprit, il les a rappelé ces choses-là. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alors, je me dis, je ne sais pas s'il y a des gens, probablement dans les livres de théologie qui existent aujourd'hui, il y a probablement des gens qui ont relevé ce défi-là, de prendre toutes les Écritures à venir jusqu'à la naissance de Jésus-Christ et qui ont sorti tous les versets christologiques pour nous les présenter et nous les expliquer. Alors, bien entendu, quand on lit la Genèse, il faut garder à l'esprit que Christ en est le fil conducteur et que ça nous amène à la prophétie concernant le Messie. Pour ceux qui sont qui nous écouteront sur Internet, j'ai mis dans mes notes de sermon, en annexe, tous les livres que j'ai utilisés et les sites web que j'ai utilisés. J'ai 10 livres et 3 sites web. J'ai mis ça là parce que parfois, aujourd'hui, on est rendu à une époque où la doctrine de l'évolution, c'est-à-dire l'enseignement de l'évolution, l'enseignement de la théorie de l'intervalle, on développera tantôt qu'est-ce que ça veut dire, c'est vraiment entré profondément dans les églises, et ça a causé un très grand tort. Les églises se sont littéralement endormies en ne croyant plus la parole de Dieu et en laissant la science venir dominer les Écritures. Alors, c'est important que personnellement, j'ai jamais lu beaucoup sur toutes les choses qui concernent la création. Parce que, pour la simple et bonne raison, quoique j'ai fort probablement tort de ne pas l'avoir fait, là, tout simplement parce que pour moi, ça ne cause pas un problème. Mais pour quelqu'un que ça cause un problème, il se doit d'aller voir ce qui a été écrit par les chrétiens. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne croit pas à l'évolution, il a l'air d'un nounou, un arriéré par le tonnerre, comme on dit. Un arriéré par le tonnerre. Mais si quelqu'un qui a des problèmes avec ça ne prend pas la peine d'aller voir ce que des chrétiens scientifiques ont écrit sur le sujet, bien entendu, il va se laisser entraîner dans toutes sortes de mensonges. Deux livres que j'ai mis, là, que j'ai découvert en lisant, le docteur Safarty. C'est un docteur en chimie. Point de pique, là. Un docteur en chimie. Et c'est un maître comment qu'appelle ça, quand tu joues aux échecs, un maître. Il a été déclaré un maître joueur d'échecs. Ça donne une idée du genre de bonhomme à qui on a affaire. Il a écrit deux livres, je vais les nommer, Il s'appelle Jonathan Safarty, S-A-F-A-R-T-I. Il y en a un qui écrit « The Genesis Account ». Donc, c'est, il écrit sur la Genèse, les 11 premiers chapitres. Et il en a écrit un autre, le même Jonathan Safarty, qui s'appelle « Refuting Compromise ». Autrement dit, ce qu'on va voir ce matin très superficiellement, lui, il écrit des briques pour expliquer toutes ces choses-là en détail. C'est quand on dit, moi, ce matin, on va réfuter la doctrine de l'intervalle, on va réfuter la doctrine de l'évolution, mais on rentrera pas dans les détails de tout ça, là, parce que ça prend, il y a des arguments qui sont de nature scientifique, mais si quelqu'un a des doutes, il se doit de lire ces choses-là. Le Seigneur nous dit de nous tenir prêts à être capables de défendre notre point de vue de la foi. Alors, si on a des doutes, moi, j'ai aucun doute, là, mais je veux les lire quand même. Même si, parce que, des fois, quand on discute avec les gens qui croient à l'évolution, puis qu'ils pensent qu'on est des arriérés parce qu'on croit ce que Dieu dit, ben, quelque part, des fois, ils nous amènent des arguments scientifiques. « Oh, mais qu'est-ce que tu fais de la datation du carbone 14? » Alors, si on ne sait même pas ce que ça veut dire, comment voulez-vous qu'on soit capable de répondre intelligemment à des arguments comme ça? Il faut le faire. Moi, j'avoue que j'ai été paresseux ce côté-là, que j'ai pas assez développé mes connaissances dans la défense du créationnisme d'un point de vue scientifique. Pas juste d'un point de vue, dire « Ah, ben là, Dieu le dit », du point de vue scientifique. Et c'est ça que ces personnes-là ont fait. Et là, j'ai nommé Safarty, mais il y en a beaucoup d'autres là, qui ont écrit sur ce sujet-là. Alors, moi, je me dis, c'est notre devoir à nous d'être capable de répondre même aux arguments scientifiques qui nous sont présentés, parce que sans ça, ils croient n'importe quoi, ils croient au Père Noël, puis ils nous amènent des genres d'arguments comme ça. Alors, juste pour dire que quand on dit qu'on croit ce que Dieu dit et que la science, je dirais le principe à retenir, c'est Dieu domine la science et non pas l'inverse. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis l'inverse. Alors, aujourd'hui, si la science dit une chose, puis que la Bible semble dire quelque chose un petit peu contraire, on fait passer la science avant. Mais, comme je vous dis, on n'a pas de raison de ne pas être capable de défendre ça correctement, parce que les outils pour nous aider à le faire sont nombreux. Je vous en ai donné une liste. Vous avez juste à télécharger. Il y a au moins 10 livres que je peux vous proposer. Et par exemple, j'en ai un, Dr. Young, E.J. Young, sur Genèse 1. Juste sur Genèse 1, les mots que ceux qui ont construit ces théories-là ils utilisent pour amener leur conclusion. Bien, juste sur un mot qui s'appelle le « wa », W-A-W. Moi, la grammaire hébreu, je vais te dire, ça fait longtemps que j'ai oublié ça. J'ai étudié un petit peu à l'école biblique, mais ça fait longtemps que j'ai oublié, parce que je m'en sers pas. Mais il y a des gens qui sont des... Lui, comme Dr. Young, il a étudié ces affirmations-là qu'on avance comme un autre argument, la différence entre le mot « bara » et le mot « aza ». Ils servent de tout ça pour développer leur fausseté. Mais quelque part, si nous, on ne connaît pas l'hébreu, c'est sûr qu'on pourrait être embêté quand ils nous amènent leurs arguments. Mais si on va voir des théologiens qui ont la connaissance hébreu et qui sont capables de nous expliquer en quoi consistent les erreurs, bien là, ça nous aide grandement. Alors, on va commencer par le premier point, la création de Dieu proclamée. C'est simple, les versets. Si vous les lisez dans l'hébreu, c'est sept mots. Il y a sept mots dans le premier verset des Écritures. Je ne sais pas en français si ça marche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, ça ne marche pas en français. Mais en hébreu, il y a sept mots pour présenter le premier verset de Genèse. Au commencement, Bereshit, Bara, Elohim, et là je ne me souviens pas des autres, mais c'est innocent. Alors cette phrase-là d'introduction des Écritures est à la fois simple, c'est assez simple à votre goût que vous lisez ce verset-là? Sublime, dans le sens que ça explique toute la création de l'univers. Et tantôt, on va donner un peu de contenu à ce que ça veut dire, la création de l'univers. Créa, et là encore là, c'est créa, c'est à partir de ex nihilo, on appelle en théologie, créé à partir de rien, juste par la puissance de la parole de Dieu. Créa les cieux et la terre. Alors, la phrase est simple, sublime, est imposante et elle est profonde. Dieu est le sujet de la première phrase de la Genèse et, en réalité, de toute la Bible. Il est aussi le sujet de presque toutes les propositions de ce qu'on appelle le prologue. Le prologue, dans Genèse, c'est Genèse 1, verset 1, aller jusqu'à chapitre 2, verset 3. C'est le prologue, c'est l'introduction. Alors, à l'intérieur de ce prologue-là, on a nombre de fois où le Seigneur dit des choses. Dieu dit, Dieu vit, Dieu sépara, Dieu appela, Dieu fit, Dieu créa, Dieu acheva. Alors, il est le sujet de tout le prologue. Alors, quand on dit sujet, quand on fait une phrase, il y a un sujet, un verbe, un complément. Alors, il est le sujet de toutes ces choses. Alors, dès le premier verset, il énonce la vérité le concernant et sa puissante activité créatrice. Alors, on peut dire que le premier verset des Écritures, Dieu ne cherche pas à démontrer « Voici, je vais vous prouver que j'existe avant de dire quelque chose. » Non. C'est comme axiomatique, une proclamation axiomatique, c'est comme on prend pour acquis que c'est compris que Dieu existe. Dieu ne prend pas la peine d'essayer de démontrer son existence. Il ne cherche pas à prouver Dieu. Alors, Dieu transcende, donc il est au-dessus, tout calcul mathématique et raisonnement philosophique. Alors, la création elle-même, tout ce qui existe quand on lève les yeux vers le ciel le soir ou le jour, elle-même témoigne de la réalité et de l'existence de Dieu. Psaume 19, verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est parce que souvent on utilise le mot sans réfléchir au sens du mot gloire. La gloire de Dieu, c'est la manifestation simultanée de l'ensemble de ses attributs. Ça veut dire que si je regarde le ciel le soir et que je suis attentif le moindrement, même les inconvertis seraient capables de percevoir tous les attributs de Dieu dans sa création elle-même juste par l'observation. Alors, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Manifester, ça veut dire rendre visible, rendre perceptible, rendre... Alors, le verset nous dit quelque chose d'important. Tout a eu un commencement, le temps, l'espace et tout l'univers. Dieu, ça implique que Dieu existe avant le début de la création. Donc, il est là au commencement du temps. Il est là au commencement de l'univers. C'est déjà indirectement l'affirmation de l'éternité de Dieu. Alors, le mot hébreu utilisé, qui est traduit en français par « Dieu », c'est le mot « Elohim ». Quand vous avez un mot hébreu qui termine par la terminaison « im », c'est un mot au pluriel. Et quand vous regardez « Elohim », donc on devrait traduire, si on traduirait vraiment littéralement, on devrait dire « les dieux ». Parce que « Dieu » est au pluriel. Pourquoi on peut dire « les dieux » ? Parce que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et quand vous regardez le temps du verbe, normalement, si vous prenez les dieux, vous devriez mettre le verbe créer. C'est pas les dieux créer, c'est les dieux créa. Très significatif. Autrement dit, le Dieu trinitaire est l'auteur de la création. Alors, beaucoup de personnes, de commentateurs bibliques, croient que le mot Elohim est une allusion au Dieu trinitaire. Et est-ce que des versets qui nous disent que Jésus est, a participé à la création? Oui, Jean 1, 1, allez jusqu'au verset 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, on parle de la divinité de Jésus-Christ. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Donc, un verset qui nous parle de la création, de la participation de Jésus-Christ à la création. On a parlé tantôt que c'était une création ex nihilo, qui veut dire à partir de rien, un appel à l'existence par la toute-puissante parole de Dieu. Si on n'est pas émerveillé par ça, là, quelque part, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on ne saisit pas. La parole de Dieu est suffisamment puissante pour appeler du néant la grandeur infinie de ce qui existe. Wow! On devrait faire un grand « wow » avec un grand « W » majuscule. Et la création divine, bien entendu, comprenait toutes les créatures sans exception. On va le voir le psaume 145, versets 1 à 5. « louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés, louez-le, vous tous ses anges. » Voyez-vous, ici, il y a une allusion aux anges, qui n'est pas nécessairement dit dans Genèse 1.1, mais on va voir que les Écritures ne se contredisent pas. « Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel. » Et regardez la fin du verset. « Car il a commandé, et ils ont été créés. » Le « il » fait référence à tout ce qui a été mentionné. Les anges, le soleil, la lune, les étoiles lumineuses, les cieux, les cieux, les cieux. Autrement dit, tu es en train de nous dire, Dieu a tout créé. Là, j'ai trouvé ça dans le Reformation Heritage Bible, qui est le docteur Joel Bickey, peut-être qu'il y en a qui ça leur dit quelque chose. C'est un homme qui, avec d'autres, a publié une Bible. Et la chose intéressante de cette Bible-là, c'est que chaque chapitre, il y a des leçons pratiques à mettre dans notre vie de tous les jours. Alors, disons que vous lisez Genèse 1.1, à la fin, lui, il va dire, voici ce à quoi ce chapitre-là devrait vous servir pour grandir dans votre foi. Et il fait ça pour tous les chapitres de la Bible. Alors, moi, je l'ai acheté, puis c'est vraiment un bel outil pour quelqu'un qui veut faire, disons, un culte personnel ou un culte familial. Il y a des applications pratiques pour tous les chapitres de la Bible. Bon, voici, je suis allé chercher un petit peu ce qu'il disait là-dessus, sur la création. Et il y avait deux notes dans le bas de page que j'ai trouvées extraordinairement puissantes pour nous montrer. Quand on dit... Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On se fait pas nécessairement une idée de la grandeur de toutes ces choses-là. Mais lui, il utilise une image que je trouve particulièrement puissante pour nous en faire apprécier. Il dit, l'astronomie moderne estime à 200 milliards d'étoiles le nombre d'étoiles dans la seule galaxie appelée la Voie lactée, le Milky Way en anglais, juste dans notre galaxie qui s'appelle la Voie lactée, 200 milliards d'étoiles. En passant, un milliard, c'est 1000 millions. 200 dans notre galaxie. Et là, il dit, il y aurait 100 milliards de galaxies dans l'univers. Ça, comme les Anglais disent, mind-blowing. 200 milliards dans notre Voie lactée et il y a 1000 milliards de galaxies. Fou! C'est clair. Alors, lui, il donne une autre illustration que je trouve particulièrement pour dire, pour employer un Québec, un mot du Québec, flyer. Il dit, si on veut apprécier la grandeur de l'univers, on va utiliser une illustration. Il dit, si on avait un ordinateur qui aurait la capacité d'observer 10 millions d'étoiles à la seconde, prenez votre ordinateur, prenez un petit carré du ciel, il s'identifie. 10 millions, il serait capable d'identifier 10 millions d'étoiles à la seconde. Selon vous, ça prendrait combien de temps avant que l'ordinateur ait fini de faire l'inventaire? 63 millions d'années. Imaginez un ordinateur qui ferait un petit carré dans le ciel puis qui balayerait ça, là. Il irait à la vitesse de 10 millions d'étoiles à la seconde. Ça y prendrait 63 millions d'années. Moi, si ça vous époustoufle pas, là, moi, ça m'époustoufle pas à peu près, là. Et les Écritures nous disent que même pour les incroyants, ils sont capables de percevoir la création de Dieu juste dans l'observation des choses. Ça nous dit dans Romains 1, versets 18 à 20, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu... » Là, il parle des inconvertis, là. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Manifeste, ça veut dire rendu évident, rendu visible, rendu observable. Pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Et dans le verset 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, on parle de ses attributs, là. 25 attributs, il faudrait les nommer un par un, sagesse, bonté, amour, miséricorde, etc. On sera capable d'observer chacun de ces choses-là dans la seule observation des Écritures. Voyez-vous que ça dit les perfections invisibles de Dieu, on parle de ses attributs, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Donc, la Bible nous dit que même ceux qui n'ont jamais entendu parler des Écritures, qui n'ont jamais la Bible, qui n'ont jamais eu la Bible dans les mains, la création est une preuve de l'existence de Dieu. Et au lieu de chercher, ils ne cherchent pas Dieu, les Écritures dans Romains nous disent qu'ils se sont donné ils ont adoré la créature plutôt que le Créateur. Ce qui m'avait frappé la première fois que j'avais étudié le livre de la Genèse, c'est que ça dit, le premier verset, en sept mots, détruit sept systèmes philosophiques que les hommes se sont construits. Là, si je vous dirais, nommez-les, on ne vous le demandera pas. Le premier verset des Écritures réfute avec puissance et détruit les principales philosophies humaines. OK, nommons-les. L'athéisme, qui dit il n'y a pas de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ouf. Dieu, comme je l'ai dit, ne prend pas la peine de vouloir dire. Je vais commencer par vous donner des arguments pour vous prouver mon existence. Ensuite, je vais faire des affirmations. Il affirme, point final. Donc, les Écritures nous disent que l'athée dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu, et les Écritures utilisent le mot fou pour en parler. Pourquoi? Parce que c'est tellement évident que les Écritures leur donnent pas de place pour s'excuser. Donc, l'athéisme. Premier verset des Écritures détruit l'athéisme. Le matérialisme. Autrement dit, l'éternité de la matière. Comme de quoi que tout chose... ça doit toujours exister. Mais non, l'Écriture, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ensuite, un autre, le polythéisme. Il existe plusieurs dieux. Ça ne dit pas, ben là, il ne faut pas prendre l'argument de les dieux pour dire que c'est polythéisme. Il faut comprendre le sens et la limitation du mot. Et le fatalisme qui dit que tout serait hasard et chance et que l'univers, il n'y a aucun contrôle sur l'univers, ça marche tout seul, on ne sait pas d'où ça vient vraiment. Là. Un autre, c'est que l'évolution, donc tout est en éternel devenir, et le panthéisme, ça qui est vraiment, je dirais que peut-être le plus répandu, ou du moins un des plus répandus de tous ces systèmes-là, c'est vraiment le panthéisme, qui identifie l'ensemble de la création comme étant Dieu. Alors, si vous lisez les livres aujourd'hui qui circulent, « Je suis Dieu », wow! Je me souviens d'avoir déjà lu un livre par une femme qui avait écrit « Je suis Dieu ». Donc, le panthéisme, c'est une certaine réalisation de la puissance de Dieu et de son étendue, mais il identifie Dieu à la création elle-même. Et non, parce que le verset nous dit qu'avant que la création existe, Dieu était là. Donc, Dieu n'est pas la création. Dieu est l'immanence qu'on appelle la transcendance. Alors, la transcendance, c'est tout simplement que Dieu est au-dessus. L'immanence, ça veut dire que Dieu est dans tout, mais on ne doit pas identifier la création avec Dieu lui-même. Donc, on va aller au deuxième point. La création de Dieu qui est préparée. Donc, ça nous dit « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Alors, avant la déclaration générale concernant la création de l'univers dans son entier, ça c'est le verset 1, l'auteur zoome sur la terre. Voyez-vous, il a commencé par le grand portrait et après ça, il a dit « Dieu, il a zoomé sur la terre pour la préparer à la venue de la vie sur la terre, à l'existence de l'homme, à la création dans son ensemble et à l'arrivée de l'homme qui était le summum de la création de Dieu. » Alors, l'auteur zoome sur la terre et dit à quoi elle ressemblait avant sa transformation pour devenir ce monde que lui-même, que Dieu lui-même a agencé et préparé pour la vie, et il le fait par l'introduction de la lumière et de l'ordre. On verra ça la semaine prochaine, ou l'autre semaine après. Alors, c'était, au début, une masse fluide, sombre, totalement incapable d'entretenir la vie, un désert impénétrable, un immense vide. La chose à réaliser, c'est que le verset 2 nous parle de l'Esprit de Dieu. Donc, on a commencé tantôt, on a dit « Dieu le Père ». On est allé dans Jean 1:1, on a dit « Dieu le Fils ». Et ici, ça nous dit que l'Esprit aussi était présent. L'Esprit faisait quelque chose à l'intérieur de toute cette création-là. Et son rôle, c'était justement d'amener, de préparer tout cela. Alors, c'est vraiment qu'on pourrait dire la création de Dieu, une préparation pneumocentrique. Quand on dit christocentrique, c'est Christ. Pneumo, ça vient du mot pneuma qui veut dire esprit, centré sur l'Esprit de Dieu. Parce que ça dit, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre. Donc, ça confirme que les choses n'étaient pas livrées à elles-mêmes, ni placées sous le jugement de Dieu. Alors, le verbe traduit par se mouvait ne se retrouve qu'en Deutéronome 32:11. Où il décrit l'aigle qui plane et veille sur sa couvée, prêt à agir en cas de besoin pour la protéger. Ici, l'Esprit de Dieu est présent et contrôle, prêt à agir lui aussi. Alors, les ténèbres, dans l'expression « il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme », désignent avant tout l'absence de lumière. Et prépare la parole d'autorité du verset 3. Dans certains contextes, le mot « ténèbre » désigne une idée associée au mal et au jugement, mais elle ne peut avoir cette connotation ici. Là, on va voir que on ne rentrera pas, je ne pense pas qu'on ait le temps cette semaine de rentrer dans la question sur quoi les arguments ils se basent pour dire que entre le verset 1 et le verset 2, ce qu'on appelle la théorie de l'intervalle, pour s'accommoder à la théorie de l'évolution, ils ont voulu dire, bien, entre le verset 1 et le verset 2, il y a eu des millions d'années qui ont existé avant l'apparition de l'homme. Mais on va voir que ça cause des problèmes théologiques insolubles, cette affaire-là, et on va voir sur quoi c'est basé, et on va être capable de le réfuter brièvement. Alors, bien entendu, pourquoi l'Esprit était là, c'était dans le but de préparer le terrain, si vous voulez dire, à l'apparition de la vie sur la terre. Alors, la matière de la création brute avait besoin de trois choses pour permettre la vie en général et celle des hommes en particulier. Qu'est-ce qu'elle avait besoin s'il y avait des ténèbres? Elle avait besoin de lumière. Quelle est la première chose que Dieu a créée dans le verset 3 et 4? La lumière. Ensuite, elle avait besoin d'ordre et elle avait besoin de vie. Alors, l'ordre, on va les voir dans les versets 10, 12 et 18. La vie, on va les voir dans les versets 21, 25 et 31. Pourquoi qu'on ne rentre pas dans les détails de ça aujourd'hui? C'est parce que ça va venir dans les prochaines leçons. Et pourquoi, une des raisons pour laquelle on peut avancer théologiquement, qu'il n'y a pas eu de désordre d'introduit entre le verset 1 et le verset 2, d'intervalle ou de millions d'années, c'est que les Écritures nous disent à sept endroits, dans juste le chapitre 1, que ce que Dieu a créé était bon. Si ce que Dieu a créé est bon, est-ce que c'est possible que la mort soit incluse dans le bon? Il me semble que poser la question, c'est y répondre. Alors, ça dit, dans les versets 4, 10, 12, 18, 21, 25 et 31, on trouve l'expression « bon » sept fois. Dans le verset 4, ça dit « Dieu vit que la lumière était bonne ». Dans le verset 10, ça dit « Dieu vit que cela était bon ». Dans le verset 12, « Dieu vit que cela était bon ». Dans le verset 18, « Dieu vit que cela était bon ». Dans le verset 21, « Dieu vit que cela était bon ». Dans le verset 25, « Dieu vit que cela était bon ». Et dans le verset 31, voyez-vous, il va souligner encore plus. « Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. » Pas juste « bon », très bon. Alors, c'est un des arguments qu'on peut dire. Dieu ne pourrait pas avoir permis l'introduction de la mort avant la vie. Parce qu'il dit que la vie, il l'a créée plus tard. Et tout ça, il dit, le verset 31, il dit qu'il vit que cela était très bon. Alors, je pense que ce qu'on va faire, je vais le couper en deux, parce que je l'avais prévu pour donner le troisième point aujourd'hui, mais je pense qu'on va le remettre à la prochaine leçon. La prochaine leçon va avoir pour but de démontrer que il y a comme trois grandes théories. La semaine prochaine, la prochaine fois que je vais vous emmener le petit dessin, j'ai trouvé un dessin sur Internet que je trouve une petite caricature qui est tellement intéressante, qui nous montre les trois grands problèmes avec ceux qui ont amené des fausses interprétations de Genèse 1. En anglais, ils appellent ça de « gap theory ». Là, on voit une Bible coupée en deux où on voit un homme essayer de rentrer la mort. Mais je vous montrerai les ça va être encore plus intéressant quand on le voit. The gap theory. L'autre, c'est the de-age theory. Autrement dit, même si c'est pas entre le verset 1 et le verset 2, il a essayé de l'introduire entre le verset 1 et le verset 3 du temps, de de-age, et dans le petit dessin on voit quelqu'un, c'est comme deux mains qui étirent la Bible comme si ce serait un élastique, qui l'étire. Alors on voit un qu'on cherchait à la couper, l'autre on cherchait à l'étirer, et la troisième, on voit une Bible et on voit une main qui tire un petit fil, puis à l'intérieur du fil, on voit la théorie de l'évolution sortir. Bon, et on voit le singe et on voit arriver à l'homme. Autrement dit, à l'intérieur, à l'intérieur du fil, ils ont tiré ça et on voit apparaître. Je trouve que le petit dessin, il faut que je vous le montre la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, mais la semaine après. J'aurai trois petits dessins que j'ai inclus dans mes notes de sermon. et que je voudrais vous montrer, parce que je les trouve tellement bonnes que j'ai décidé de les mettre. C'est comme peut-être un aide-mémoire pour nous rappeler c'est quoi les principales choses qu'ils ont essayé d'introduire pour affaiblir la foi des chrétiens, parce que ça l'a définitivement affaibli. Alors, ce qu'on va faire à la prochaine, au prochain sermon, on va tout simplement terminer ce qu'on a commencé aujourd'hui. Alors, on va aller un petit peu plus en détail en vous présentant c'est quoi la théorie de l'intervalle, ou ce qu'en anglais on appelle « gap theory ». Et on va regarder le day-age theory, donc l'introduction d'une période de millions d'années entre les versets 1 et le verset 3, et la théorie de l'évolution. On va regarder les trois positions et on va apporter les problèmes théologiques que ces positions-là amènent, qui ne sont, sont pas des petites choses, vraiment énormes comme problèmes. Alors, sont à rejeter, bien entendu, mais on va les examiner pour les connaître et au moins pour qu'on sache que si quelqu'un nous amène ces arguments-là, au moins si nous, on n'est pas capable de répondre, qu'on soit capable de dire, ben moi, je ne suis pas capable de te répondre, mais je peux te référer à quelqu'un qui est capable. Alors, Dr. Safarty, là, s'il y en aurait un qui arriverait avec son affaire du carbone 14, ben je peux vous garantir qu'il serait capable de démolir son argument, avec des arguments scientifiques. Alors, ça existe, mais il suffit que nous, si on a des gens qui nous amènent des doutes quant à notre foi, quant à l'expression de notre foi, qu'on soit au moins capable de les diriger vers des sources qui, eux, seront capables de répondre à l'ensemble des problèmes. En tout cas, si vous regardez les trois sites web là, que je vous ai mis, là, il y en a deux en anglais puis un en français. Créationnisme... .com, je pense. Oui, creationist.com. C'est en français. Il y a beaucoup d'articles qui ont pris sur les sites anglophones qui ont traduit. Ils ont traduit énormément d'articles. Qui était la femme de Caïn? Il y en a plein. Des centaines d'articles. Non seulement des articles, ils ont des vidéos, ils ont plein de choses. Alors, c'est pas que les choses n'existent pas. C'est qu'on est peut-être un petit peu paresseux. Alors, on va terminer là-dessus. Seigneur, on veut te rendre grâce. Ton livre est d'une richesse très grande, profonde, pleine de sagesse, pleine d'amour. Alors, Seigneur, donne-nous d'avoir les yeux ouverts. Donne-nous d'être capables de comprendre ta parole, d'y prêter foi et arrêter, Seigneur, d'être gêné de notre position. Qu'on se devrait d'être fier, d'être créationniste. On se devrait aussi, Seigneur, d'être capable, du moins si on n'est pas capable, de défendre nous-mêmes nos positions, de les référer à ceux qui sont vraiment très ferrés pour être capables de le faire et dont les qualifications scientifiques ne posent aucun problème. Alors, Seigneur, permets que déjà on fasse le bon choix, comme ça le dit dans Hébreux 11, verset 3, que c'est par la foi qu'on croit ces choses-là. Alors, on te demande toutes ces choses par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.